Arsène Lupin, le collier de la reine. Deux ou trois fois par an, à l'occasion des solennités importantes, comme les bals de l'ambassade d'Autriche ou les soirées de Lady Billingstone, la comtesse de Dreux-Soubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Beaumère et Bassange, joaillier de la couronne, destinait à la du Barry, que le cardinal de Rouen-Soubise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France, et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice Réto de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Réto de Villette l'avait conservée tandis que le sieur de la Motte et sa femme dispersaient aux quatre vents les pierres brutalement desserties, les admirables pierres si soigneusement choisies par Beaumère. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Dreux-Soubise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de Rohan-Guéméné, et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais Jeffreys, les compléta avec d'autres de valeur beaucoup moindre, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage, tel qu'il était sorti des mains de Beaumère et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les Dreux-Soubise s'enorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le comte actuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au Crédit Lyonnais pour l'y déposer. Il allait l'y chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'emparer et l'y reporter lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès. Et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierreries ruisselaient autour du cou gracieux. Les mille facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe que le comte de Dreux goûta profondément et dont il s'applaudit quand il fut rentré dans la chambre de leur vieil hôtel du faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis quatre générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérile, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules et le tendit à son mari, qui l'examina avec admiration, comme s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcôve plutôt, que l'on avait complètement isolée de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée parmi des cartons à chapeau et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers 9 heures, avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour, puis il le retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidée de sa bonne. Elle lui dit « Vous sortez ?»«
Oui, pour cette course. »
« Ah, en effet, c'est plus prudent !» Il pénétra dans le cabinet. Mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs,
« Vous l'avez pris, cher ami ?»
Elle répliqua, « Comment ? Mais non, je n'ai rien pris !»«
Vous l'avez dérangé ?»«
Pas du tout, je n'ai même pas ouvert cette porte !»
Il apparut, décomposé, et il balbutia, la voix à peine intelligible.
« Vous n'avez pas... Ce n'est pas vous ?» Alors,
elle accourut, et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge. et le comte répétait
« Inutile, tout ce que nous faisons est inutile. C'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mis. »
« Vous avez pu vous tromper. »
« C'est ici, là, sur cette planche, et pas sur une autre !»
Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaines lamentations, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail, et tout de suite il demanda
« Êtes-vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre ?»«
Absolument sûr, j'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. »
« Et il n'existe pas d'autres passages qui permettent de s'introduire dans le cabinet ?»«
Aucun. »«
Pas de fenêtre ?»«
Si, mais elle est condamnée. »«
Je désirerais m'en rendre compte. »
On alluma des bougies et aussitôt, M. Valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur par un bahut, lequel, en outre, ne touchait pas exactement aux croisées.
« Il y touche suffisamment, » répliqua M. de Dreux, « pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. »«
Et sur quoi donne cette fenêtre ?»«
Sur une courette intérieure. »«
Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là »«
Deux, mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petites mailles. C'est pourquoi nous avons si peu de jours. »
D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors.
« À moins, »
observa le comte,
« que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. »«
Auquel cas, vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussé. »
Le commissaire réfléchit un instant, puis, se tournant vers la comtesse,
« Savait-on dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir ?»« Oh, certes, je ne m'en suis pas caché, mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet. »« Personne ?» Personne, à moins que... Je vous en prie, madame, précisez. C'est là un point des plus importants.
Elle dit à son mari.
Je songeais à Henriette.
Henriette? Elle ignore ce détail comme les autres.
En es-tu certain? Quelle est cette dame?
Interrogea M. Valorbe.
Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils et leur ai meublé un appartement dans cet hôtel. »
Et elle ajouta avec embarras.
« Elle me rend quelques services. Elle est très adroite de ses mains. »
« À quel étage habite-t-elle ? »
« Au nôtre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine. »
« Ouvre sur cette courette, n'est-ce pas ? »
« Oui, juste en face de la nôtre. »
Un léger silence suivit cette déclaration. Puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisît auprès d'Henriette.